La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
La rentrée est en fête. Les vacances se terminant, nous allons reprendre notre studieuse activité d'exploration du dictionnaire des titres. Et nous en sommes, je vous le rappelle, car ça dure depuis plus de 10 ans, nous en sommes maintenant au supplément et à la lettre M.
Et là, on va se retrouver à Martinique.
Le Martinique, c'est une danse, c'est le nom d'une danse qui est née à Haïti au XVIIe siècle.
Vous imaginez une danse africaine en cercle, comme c'est souvent le cas en Afrique, avec une ou deux personnes au milieu. Et puis là, les gens du cercle, ils s'avancent vers les personnes du milieu, puis ils se reculent, et tout ça avec un échange.
Oui, les gens du cercle, ils s'avancent, ils circulent, mais ils tournent aussi, et tout ça, ça se passe en dansant d'un pied sur l'autre. Et à chaque fois que les solistes, les deux qui sont au milieu, font une figure rythmique, qu'on entend très bien, naturellement, eh bien, autour, on répond avec un riff vocal. Tout ça vient directement de l'Afrique, et ça s'appelle la danse juba. Mais avec l'implantation à Haïti des Français, on transforme cette danse avec l'utilisation des pas de danse français, les plus à la mode, naturellement.
Moi, je danse des pas français.
Et ça devient une danse en ligne, une sorte de brise-pied en fait, finalement. Mais toujours avec le même principe de gens qui rythment d'un côté, qui répondent de l'autre et vice-versa. Bref, ça s'appelle Martinique, cette danse-là. Et ça a été repris par Wilbur de Paris, qui a eu un orchestre dont la fière devise était de la nouveauté dans la tradition. Et qui a repris comme ça pas mal de choses en les mettant à sa sauce. Alors voici le Martinique de Wilbur de Paris.
Thank you.
Eh bien, on n'en a pas fini avec Martinique. Parce qu'on voit là une deuxième version, et cette fois-ci par Teddy Buckner.
Elle a été directement tirée de la précédente, parce que je pense que ce morceau a beaucoup plu à Teddy Buckner, qui a décidé de lui rajouter sa petite touche personnelle. Alors ils ont démarqué totalement l'arrangement, ou plutôt la routine du morceau de Wilbur de Paris. Ils l'ont pris avec un tempo un peu plus enlevé. Et ce disque de Teddy Buckner, il a fait le bonheur de nos surprises parties, à tel point que mettre ce disque sur un plateau avec des gens de notre génération, c'est déclencher une cataracte de souvenirs.
Oui, on le mettait et tout le monde faisait « Ah !»
Martinique. Bref, ce Martinique-là, nous ne résistons pas à ouvrir les portes du temps. Pour vous le faire écouter également, lui, il a été enregistré en public, c'est pas aussi bon comme son que le précédent, mais c'est très vivant, au Dixieland Jubilee.
Thank you.
maintenant, on va rentrer en cuisine avec mashing potatoes, c'est-à-dire la purée de pommes de terre.
Nous sommes devant le mixeur, qui est d'ailleurs une invention américaine. Moi qui te parle, j'ai vu arriver le premier mixeur américain. C'était un truc horriblement dangereux, d'ailleurs. J'insiste pas. Et là, on en est au presse-purée.
À cette époque-là, il fallait toujours inventer quelque chose de nouveau. Parce que les gens n'avaient pas, comme nos jeunes et même moins jeunes de maintenant, un iPhone avec 500 titres sur la taille d'un petit appareil genre paquet de cigarettes, voyez. Et donc, ils allaient au bal pour entendre des choses nouvelles. Et on leur proposait des choses nouvelles et des danses nouvelles. Et alors, c'est assez rigolo parce que ce mashing potatoes, ben, il fallait frotter en faisant avec ses pieds le geste du presse-purée. Oui, c'était peut-être pas très intellectuel, mais ça faisait rigoler tout le monde.
Moi, je ne l'ai jamais vu danser, mais ce qui me rend un peu perplexe, c'est qu'on dit que ça dérivait du Charleston. Essayez d'imaginer la chose, et c'est un orchestre très populaire dans les bals, puisque nous parlons là d'une époque où on dansait énormément, et où le jazz servait essentiellement à danser. Et l'orchestre en question, qui était celui de Red Prysock, était très réputé pour faire danser les gens, il était très apprécié. Et c'est lui d'ailleurs qui a enregistré ce fameux Mashing Potatoes et cette nouvelle danse du temps, qui a eu un certain succès puisqu'on en parle encore, figurez-vous. Red Prysock, c'est celui qui tient le saxo ténor.
La musique, ça sert à danser, ça sert à écouter, ça sert à s'amuser, mais ça sert aussi à remercier. Et là, eh bien, c'est un remerciement qu'un musicien va adresser à une infirmière.
Et il s'était mis dans un très mauvais cas, le musicien, vu qu'il était pianiste et chef d'orchestre, mais pianiste, excellent pianiste.
Claude Hopkins.
Et il s'était cassé le poignet. Alors ça, pour un pianiste, c'est quand même pas recommandé.
Ouais, là, c'est...
Donc il se retrouve, il a fallu l'opérer, etc. Et il se retrouve en rééducation.
Avec une certaine Louise Mitzi.
Et cette Louise Mitzi, dont Claude Hopkins raconte qu'elle avait la peau tellement claire qu'elle pouvait être prise pour une portoricaine. Donc là, vous pouvez penser à Eva Longoria, si vous voulez, en écoutant le morceau qui suit. Cette Louise Mitzi, eh bien, Claude Hopkins s'en est tellement bien trouvé qu'il a absolument tenu à lui dédier un morceau. Et ce morceau s'appelle tout bêtement...
Devinez, Mitzi.
Thank you.
On reste dans les noms parce que le morceau suivant, c'est More Truth. Truth, ça veut dire vérité. Et More.
Eh bien, More, ça voudrait dire plus de vérité finalement. Mais tout ça, c'est un calembour de Bill Doggett autour du nom d'un musicologue, critique, directeur de collection suisse installé à Paris et qui s'appelait Kurt More. Alors évidemment, More, ça s'écrivait M-O-H-R et pas M-O-R-T ou M-O-R-E. Et de ce More Truth, nous n'allons pas non plus faire la More Truth, naturellement.
Wouh ! Bravo, Verneau !
Figure-toi que j'ai bien connu cet individu, qui était d'ailleurs tout à fait sympathique. Et un jour, nous avions discuté de King Oliver. Il m'a dit, il faut que vous passiez chez moi parce que je vais vous prêter une étude sur King Oliver tout à fait remarquable. Et bon, on me donne l'adresse et puis j'y vais. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai trouvé.
Eh bien, écoutez, pour aller, pour rentrer chez Kurt More, vous ouvrez la porte et là, c'est une sorte de labyrinthe. Vous savez, les labyrinthes, vous rentrez, il y a des troènes partout et puis il faut s'y retrouver. Eh bien, chez Kurt More, c'était pareil.
Exactement. Alors, vous commenciez par monter 6 étages d'un escalier de service puisque les chambres, dites chambres de bonne des immeubles de cette époque-là à Paris, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, étaient accessibles uniquement par l'escalier de service, naturellement. Bon, alors donc, 6 étages à s'appuyer. Après, je cherche, je trouve la porte. Je frappe, il m'ouvre et je tombe dans une double chambre de bonne. Hein, il en avait réuni 2 pour habiter. Et là, il y avait des disques partout jusqu'à peu près à 1 mètre, 1,10 mètres du sol. Mais des piles de disques de 33 tours, parce que comme il était musicologue, critique, etc., il recevait tout ce qui paraissait. Il jetait rien. Alors il y avait des piles de disques comme ça. Il y en avait partout. Quand on entrait, à gauche, il y avait le coin cuisine. Et à droite, il y avait le coin sommeil. Et puis au milieu, près d'une fenêtre, je me souviens vaguement que c'était mansardé, il y avait une petite table de tabourets. Et puis, de l'entrée à la petite table, à la cuisine, etc., il y avait des couloirs entre les disques. C'est-à-dire qu'il y avait des allées.
Heureusement que Kurt More n'avait pas une nombreuse famille.
Non, il vit. Je dois dire qu'il vivait seul. J'ai franchi l'allée centrale. On s'est assis au milieu de tous ces disques. Puis on a discuté, évidemment, à perte de vue. Et puis, il m'a prêté ce bouquin. Je ne sais pas si Bill Doggett avait rendu visite à Kurt More dans son 6e étage, mais toujours est-il qu'il lui a dédié le morceau qui vient et qui s'appelle donc...
More Truth.
Thank you.
d'un musicologue à l'autre, nous voici à Montauban. Alors là, quand même, à Montauban, il y avait plus de place que chez Courtemort. Hein.
Naturellement, quand nous pensons à Montauban, nous pensons au Faubourg du Moustier, nous pensons 65, nous pensons à la maison du Panassier, où nous avons beaucoup séjourné et où nous avons beaucoup appris en matière de jazz, tous les deux, du temps de nos jeunes années. Et cette maison du Faubourg du Moustier était fréquenté par tous les musiciens américains qui passaient par là, à telle enseigne qu'il y a un nombre incalculable d'enregistrements qui s'appellent au 65, 65 Faubourg, chez Panassier, Blues pour Panassier, enfin bref, Hugues Panassier, c'était un peu le pape du jazz, comme on l'appelait à cette époque. Et son fils a fait un film dont nous avons eu l'occasion de parler sur cette antenne, ce film qu'il projette d'ailleurs toujours, qui a beaucoup tourné et qui s'appelle
L'aventure du jazz.
Il était donc allé en Amérique. Et sur les conseils de son père, à peu près téléguidé par son père, il avait réuni des musiciens, des orchestres, il les avait filmés, il les avait fait parler.
Et je précise bien qu'ils avaient tous joué gratuitement, ce qui est extrêmement rare pour un musicien américain.
Oui, par amitié. Par amitié, parce que vraiment, Hugues Panassier était leur ami. Je crois d'ailleurs que c'est bien le seul critique de jazz, en tout cas français, qui a été ami à ce point avec les gens du milieu noir américain musical.
Pour beaucoup, il a été un découvreur. Un découvreur pour l'Europe.
Un découvreur et un promoteur, c'est tout à fait vrai. Et parmi les musiciens que Louis Panassier avait réunis pour les filmer, en Amérique, ça se passait à New York, il y avait un orchestre qui s'est spontanément auto-baptisé Panassier Stompers. Ils étaient 8, c'était 8 stars de premier plan du jazz, souvent des gens légendaires, hein, qu'on trouve tous dans les dictionnaires du jazz. Il en est résulté 2 morceaux pour le film de cet orchestre, donc. L'un s'appelle « Chez Panassier » et l'autre, que vous allez entendre, puisque nous sommes à la lettre M, s'appelle
Montauban Blues. Thank you. Au faubourg du Moustier, chez Panassier, dont on vous parlait tout à l'heure, il y avait aussi un autre... Vous savez, en Amérique, ils disent « guy ». En gros, un autre type qui s'appelait Morgantini. Il est parmi nos M.
Ça, c'est vraiment les hasards de l'alphabet qui nous font sauter directement de Montauban chez Panassier à Morgantini, du président de Club de France à son vice-président, d'un musicologue à l'autre. C'est assez étonnant. Alors Morgantini, il habitait du côté de Pau. Je crois d'ailleurs qu'il y habite toujours. Il était souvent en visite chez Panassier, où nous l'avons rencontré pas mal de fois. Il vient de publier, nous le signalons aux amateurs de blues, un formidable double DVD qui s'appelle Mémoire de blues. Alors là, vraiment, à avoir pour tous les fans de ce genre de musique. Et il partageait avec Panassier la pédagogie du mime.
Oui, pour que la musique soit plus vivante, quand il voulait montrer... à ses stagiaires, mettre en avant, pousser un peu la musique, il l'a mimé. Alors c'était tout à fait amusant parce que dès que il y avait une clarinette qui montait dans les aigus, et ben le bras de Morgantini ou de Hugues Panassier montait vers le haut en faisant blou comme ça. Enfin, c'était très très vivant parce que on avait un peu le spectacle visuel en même temps que l'auditif.
C'est vrai qu'il mimait très bien. En tout cas, nous qui avons reçu l'enseignement de Panassier à l'époque, nous avons beaucoup appris par le mime. Et même, il faisait mimer ses stagiaires. On s'est retrouvé en grand orchestre une fois comme ça.
Et là, il ne fallait pas se tromper parce qu'il fallait savoir quand on commençait. Hein. Pour que la chose soit plus nette, il faisait lever les personnes qui devaient jouer. Et alors, s'il y en avait un qui se levait alors qu'il était dans les drums et que c'était les trompettes qui jouaient, Hugues Panassier le regardait avec un œil bleu, un peu glacé, vous voyez.
Alors ce don du mime, eh bien, il est partagé par Morgantini. Il avait beaucoup frappé Tiny Grimes, parce qu'il y avait aussi beaucoup de musiciens qui défilaient chez Morgantini. Et Tiny Grimes, parmi eux d'ailleurs, un des plus assidus, ils étaient très amis. Et Tiny Grimes, un jour de séance d'enregistrement où je pense que Morgantini devait être dans le studio, eh bien il a simplement enregistré avec ses musiciens, dont je te signale Jean-Marc Chan au piano, hein, c'est, ce qui n'est pas rien. Et puis il y a un petit français... surtout connu comme trompettiste, c'est un des meilleurs trompettistes que nous ayons, François Bienzant, bah là, il tenait l'orgue. Il est aussi batteur et des gens qui savent tout faire. François Bienzant en fait partie. Et donc ce blues, eh bien, ils l'ont naturellement appelé...
Morgantini with Mime. Thank you.
Ça, c'était la première version. Ils l'ont écouté et puis ils ont pensé qu'ils pourraient faire mieux. Alors, ils ont recommencé, ils en ont fait une deuxième. La voilà.
Thank you.
C'était la planèse du jazz.
À la planèse prochaine.